Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, pour ce dernier week-end avant les fêtes et deux émissions spéciales en préparation, nous allons vous donner des idées de livres à offrir avec nos libraires et avec nos invités. Pour un roman flamboyant, un livre de cuisine pour voyager et une BD autour d'un personnage culte, très culte, voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le grand écrivain algérien Yahya Bellasri nous offre un conte humaniste sévère qui milite pour la liberté et l'insoumission. Le silence des dieux est un roman poétique lumineux à la portée universelle. C'est un jeune chef cuisinier qui affole les compteurs du réseau TikTok. Diego Alari propose des recettes simples inspirées par les saveurs du monde. On le rejoindra à Megève dans un instant avec quelques idées de plats pour les fêtes. C'est un événement qui va affoler les quarantenaires et même les autres plus âgés. Xavier Dorizon exauce son rêve d'enfant en reprenant Goldorak avec le soutien de quatre artistes prodiges de la BD. 140 pages intenses, un vrai cadeau de Noël pour les fans. La librairie francophone avec nos libraires qui vous diront quels sont pour eux les livres à offrir dans toutes les catégories. Et puis nous rendrons hommage à Maryse Wolinski, disparue la semaine dernière. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. Pour la Belgique, on retrouve Nathalie Clairin de la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Emmanuel.
Tout va bien?
Oui. Très bien, merci.
Les fêtes se préparent activement en librairie, je sais.
Ah oui, comme des petits lutins.
Oui, c'est ça. Cap sur le Canada, où il y a des lutins aussi, avec Mike Viennot de la librairie Monet à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le premier lutin de tous, tout vert.
Eh bien oui, c'est moi. Oui.
C'est ça. En France, on retrouve Mathieu Colombe de la librairie Goulard à Aix-en-Provence. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien de votre côté en Provence?
Oui, oui, tout va bien. Il fait, à part qu'il ne fait pas Noël, mais sinon tout va bien.
Comment ça, il ne fait pas Noël?
Il fait beaucoup trop beau.
Ah oui, ça c'est le sud de la France, hein, mon gars. Bon courage, courage. Allez, Claire Renaud est en Suisse. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Atmosphère à Genève et vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Toute fraîche qui date de la semaine passée, c'était mercredi passé, j'avais organisé une dédicace gourmande avec Annie Jean-Méret et Carlo Trichy, le grand cuisinier. Mmh. Et vers 3h30, ma table était toute belle avec des beaux bouquets de fleurs et puis les jolis livres sur la table. Un monsieur entre et me dit « Ah, mais moi je croyais que la dédicace elle était à 11h30 ce matin, je suis à Genève depuis 11h30 ». Puis je savais pas quoi lui dire, j'ai dit « Bah oui, mais c'était 6h30, c'est marqué partout 6h30 ». Puis il me dit « Je peux m'asseoir ?» Et il se met à la table où, que j'avais déjà organisée pour les invités.
Ouais.
Puis je trouvais un peu gonflé. Hein. Et puis, j'ai dit oui, 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 mais j'étais pas très aimable, on va dire ça comme ça. Je faisais ma tête. Et donc, le temps passe, je lui sers un café, il y a des clients qui arrivent. Bonjour, on vient pour la dédicace. C'était toujours trop tôt, c'était 6h moins quart. Là,
ouais, moi, c'est sans fin votre histoire, Claire, on a perdu. Ah. Et donc
Et j'ai dit, les invités sont pas encore là, ils arrivent à 6h30.
Oui.
Et ils me disent, les deux, non, il y en a déjà un qui est là. Et je me suis liquéfiée. En fait, le monsieur qui était là, c'était Carlo Trichy. Je ne l'avais pas reconnu. Et j'ai dit, je suis désolée, je ne vous ai pas reconnu. J'ai essayé de faire l'humour. Oui, oui, vous ressemblez à la photo derrière le livre.
C'est
et
honteux.
J'étais mortifiée.
Très bien. Bon, merci Claire pour cette histoire. On va continuer avec un chef, justement. On va parler cuisine avec Diego Alari.
Gigolette de Lot, petits légumes avec canapé de brocoli au basilic.
Je vous propose en entrée, nous avons filet de hareng, pomme à l'huile, filet d'anchois, pomme à l'huile, ou filet de maquereau, sans pomme mais à l'huile, madame.
Sur cette musique de Caravan Palace et la voix des inconnus que vous aurez peut-être reconnu pour le coup. Bonjour Diego Alari.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un jeune chef cuisinier célèbre pour vos recettes sur le réseau social TikTok. Vous êtes en duplex depuis Megève. Vous ouvrez un restaurant saisonnier cette semaine, un restaurant éphémère donc.
C'est ça, tout à fait. On ouvre dans, je dirais, 2 heures.
Ah
donc
oui,
là, c'est le bouillonnement, là. On se prépare.
Bon, parfait. Comment c'est Megève en ce moment? Faites-nous voyager un peu, Diego.
Eh bien, ce matin, il y avait beaucoup de soleil. Maintenant, il y a beaucoup de brume. Voilà, ça change. Et puis, il fait un peu froid. Mais des petites décos de Noël, des lumières, du vin chaud, des odeurs de crêpes, de pâte à tartiner. Enfin voilà.
On est à la montagne.
C'est ça.
Bon, vous êtes fait connaître sur TikTok en 2020 entre deux confinements en filmant une recette de guacamole d'avocat flambée à la tequila. Du coup, vous avez continué. 2 500 000 personnes se sont ensuite abonnées à votre compte et vous publiez votre premier livre de cuisine, En cuisine avec Diego Alari. C'est un rêve de Noël, votre histoire, Diego?
Exactement, c'est un rêve de Noël. Bon, c'est beaucoup de travail aussi,
oui.
C'est pas qu'un rêve de Noël, mais oui, ça a commencé fort et puis voilà, je m'arrête pas, j'essaye de me diversifier, de faire plein de choses, de faire des projets surtout et puis de m'amuser quoi, de prendre du plaisir.
Alors vous êtes magnifique hein, sur la couverture, avec vos tatouages, avec une couverture orange fluo, tout ça claque hein, comme on dit, c'est vraiment réussi. Vous dites cuisiner dans la préface, vous dites cuisiner à l'intuition, en vous laissant porter par des odeurs ou des textures. Bien cuisiner, c'est instinctif pour vous ?
Oui, je pense que ça fait partie des odeurs, de tout ce qui peut aussi nous entourer, de nos envies. Des fois, on a envie de cuisiner certaines choses, de rajouter un peu de piment ou peut-être un peu de fleur de sel ou du poivre. Et voilà, c'est de l'intuition. Des fois, je pense aussi à ma famille, ma mère, quand elle nous recevait, par exemple à Noël, les dîners. Voilà, j'aime bien des fois rajouter des choses et fonctionner aussi à l'instinct et pas que sur des recettes qui sont totalement préécrites. Peut-être des fois rajouter un peu ma petite touche, j'aime bien.
Alors c'est vrai, puisqu'on parle de votre famille, vous avez des origines portugaises et espagnoles. Et vous êtes du coup très ouvert aux saveurs du monde. On le voit dans vos recettes, il y a des plats inattendus. C'est un mélange de vos idées en quelque sorte.
Exactement, c'est un mélange d'idées, c'est un mélange aussi, comme je vous ai dit, d'envie. Des fois, je me réveille et j'ai envie de chocolat. Parfois, j'ai envie d'œufs mollets. Voilà, ça dépend. Et puis, j'essaie de toucher un peu à tout, de faire un peu toutes les cuisines sans avoir de cases, en fait, tout simplement.
Sans a priori, quoi. Ouais.
Exactement, ouais. Sans a priori.
Alors, salade de pois chiches aux épices, chorizo grillé et citron vert. Cela semble particulier, Xavier Dorizon, qui a repris Goldorak, salive déjà. Vous arrivez à goûter par la pensée, Diego, à associer les goûts sans manger, par exemple. Il paraît que c'est un don que certains ont, ça.
Alors, je pense que c'est dû aussi au travail. Je pense que c'est le fait de travailler dans un restaurant tout le temps et d'avoir aussi un peu d'expérience, bah ça nous forme à quel produit pourrait marcher avec un autre produit, quel poisson peut marcher avec une épice, etc. Donc on a toujours, je pense, un cuisinier, il a toujours une petite idée derrière la tête quand il commence son plat.
Ouais. Mais vous goûtez sans manger, ouais. Vous arrivez à goûter par la pensée.
Je goûte par la pensée, mais ouais. Je goûte toujours à la fin.
Bien
quand
sûr.
Même.
Bien
et
sûr.
Au fur et à mesure.
Bien sûr. Pour les fêtes, il y a la recette d'un ceviche de Saint-Jacques, par exemple, avec agrumes et leche del tigre. Comment peut-on faire cela vite fait, Diego Alari? C'est d'origine péruvienne, hein.
Alors, le leche del tigre, c'est d'origine péruvienne. Et d'ailleurs, c'est un plat que j'ai mis à la carte là ce soir à Megève.
Ouais.
C'est un plat qui va, je pense, très très bien marcher. Alors, je l'ai un petit peu plus poussé que sur le livre.
Alors, comment on fait si on veut le faire rapidement?
Eh bien, on se prend des belles Saint-Jacques déjà pour commencer. Un beau produit. Et puis, on les taille en escalopes. Pas trop finement. Voilà, on se prend pas trop la tête. Et puis, on essaie de faire une sauce leche del tigre. Mais pour ça, il va falloir regarder sur le livre. Parce qu'il y a quelques petits détails à regarder. Ça va être un peu long de vous expliquer.
Oui,
mais
c'est vrai que c'est un peu long.
Ouais,
c'est vrai que c'est un peu long, mais il y a plein de choses. Hein. Il y a du lait
c'est
de coco,
frais, ouais.
Il y a des épices, c'est très frais. Et ça va très bien avec les Saint-Jacques, pour le coup. Quel serait votre repas de fête idéal, du coup? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Noël ou au jour de l'an?
Alors moi, à Noël, je vais certainement faire une petite tourte. Une tourte, alors ça va peut-être être une tourte de pigeon ou alors une tourte de bœuf, un filet de bœuf avec un peu de foie gras à l'intérieur. On retrouve un peu les petits clichés de Noël à l'intérieur de ma tourte, envelopper tout ça d'une pâte feuilletée et peut-être rajouter un peu de pistache ou alors d'abricot confit, faire un petit voyage entre-temps, mais pas trash. Voilà, on reste...
traditionnel.
Reste même, ouais. Voilà, on reste traditionnel, mais on essaye d'y apporter... des petites touches un peu différentes.
Avec les saveurs du monde qui sont là derrière, mais délicatement. C'est important la délicatesse quand on assaisonne un plat. Alors il y a en Suisse notre libraire Claire Renaud qui a un très bon contact avec les cuisiniers, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a lu votre livre, Diego Alari. Claire, qu'en avez-vous pensé?
Alors j'invite Diego quand il veut pour une dédicace et je pense que je
méfiez-vous,
vais le reconnaître.
Hein. Méfiez-vous.
Oui. Alors, oui, bah, c'est un livre qui nous amène plein de soleil en ces temps moroses. Ces recettes ultra rapides s'adressent à tous les stressés. Je ne dirais pas que j'en suis une. Elles sont ultra rapides et en même temps, je les ai trouvées appétissantes et originales. Donc, en basique ensoleillé de plus, avec en plus votre sourire sur la couverture, que demander de plus, à part vous souhaiter tout le succès et tout le meilleur.
Voilà, Diego Alari.
Merci beaucoup.
C'est sympa.
Hein.
Ouais, c'est vrai. Je m'associe à ce commentaire parce que vous le méritez vraiment. Vous êtes chouette. Vous êtes un chouette cuisinier,
merci
Diego.
Beaucoup.
Il y a une recette curiosité dans ce livre. C'est le sandwich choripan, sauce criolla et mon chimichurri. Qu'est-ce que
oui,
ça veut dire, Diego, ça?
Bah, c'est une recette que j'ai découverte en Colombie, sur des petites échoppes. Alors, c'est pas vraiment des petites échoppes, c'est des petites roulottes. Je sais pas comment on appelle ça. C'est des hommes et des femmes qui sont avec des petites roulottes.
Oui, des stands mobiles.
Ouais. Voilà, exactement. Et j'ai découvert ça. Et en fait, c'est très simple. C'est un pain grillé avec une saucisse un peu pimentée à l'intérieur qui est grillée aussi. Et la sauce chimichurri, qu'est-ce que c'est? La sauce criolla, pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une sauce chimichurri d'ailleurs. C'est des herbes, du citron, tout ça mixé. Et ça vous fait vraiment une sauce qui a du peps, qui mouille un peu dans votre pain et ça, avec le côté craquant du pain, ça en bouche, ça pète, tout simplement.
Et le chimichurri alors, qu'est-ce que c'est au final?
Eh ben, le chimichurri, c'est un peu la même base, voilà. C'est des oignons, des poivrons, des herbes, tout ça taillé finement avec un peu d'huile d'olive, du jus de citron. Mais la sauce criolla, en plus, c'est mixé. Voilà
d'accord,
la différence.
Ouais. Le chimichurri qui serait d'origine, un condiment d'origine argentine.
Exactement.
C'est comme un rougail, en fait, quelque sorte, un petit peu, hein.
Si oui. Ah, c'est bon, le rougail.
Ouais,
j'adore
le rougail de la Réunion. C'est la période de la raclette, Diego, et vous proposez dans ce livre une raclette à l'espagnole, version pata negra. C'est la raclette de luxe, ça?
Mais je me suis un peu amusé à reprendre les codes de la raclette et à changer certains produits. Bah, par exemple, le jambon classique de la raclette, je l'ai remplacé par un jambon pata negra.
Mm-hmm.
Bon, c'est vrai qu'il coûte un peu plus cher.
Ah oui, oui, carrément.
Mais voilà, on est voilà des pommes de terre. En soi, ça coûte pas très cher et le fromage, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et on peut mettre du comté, on peut mettre de l'emmental, du manchego. On peut se faire plaisir. Et c'est pour ça que je dis au début du livre, vraiment, on peut lancez-vous si vous avez envie de rajouter d'autres choses, etc. Voilà, moi, je mets toujours une recette de base, mais on peut toujours un peu la diversifier.
Mm-hmm.
Je donne aussi des tips et des petits tutos dans le livre. Voilà, il n'y a pas que des recettes. Il y a aussi des comment faire, par exemple, une pâte à pizza ou plein de choses comme ça qui vous accompagnent un peu dans la lecture.
Ouais. Il y a aussi une recette très colorée pour se rafraîchir le foie. Entre Noël et Jour de l'An, ce sont les rouleaux de printemps, avocat et betterave, chioggia, la betterave italienne, chioggia, avec de la coriandre, des carottes jaunes, de l'amande, des graines de sésame, des fleurs comestibles. C'est facile à faire en moins de 30 minutes, puisque c'est la promesse du livre, ça? Oui.
C'est facile à faire.
D'accord.
C'est facile à faire, c'est un montage, il n'y a pas de cuisson.
Oui, c'est ça.
Donc c'est assez facile à faire.
Bon.
Voilà.
Merci beaucoup, Diego Alari.
Merci à vous.
Merci, votre livre En cuisine, 40 recettes en moins de 30 minutes est paru aux éditions Hachette Cuisine. Bonne fête à vous, Diego. À très bientôt et bonne chance pour le resto éphémère à Megève.
Eh bien, merci, vous aussi. Et puis j'y file, là, je cours.
Allez-y. À bientôt, revoir. Diego. Au revoir. À suivre, le grand écrivain algérien Yahya Belaskri. Et tout à l'heure, le retour de Goldorak. Et oui, dans la librairie francophone. Voici Delgrès.
Dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui vivait. Dis-moi ça qui passait, dis-moi ça qui passait. Laissez-moi vivre.
nouveau titre de Delgrès avec ces mots-là.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Yaya Belaskri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le silence des dieux est un roman flamboyant, comme on dit, entre le conte, la poésie et le récit politique. Vous imaginez un village algérien aux portes du désert, séparé du monde par un barrage militaire. Dans cet endroit paisible, digne d'une oasis, un jour, les portes se ferment.
Et arrive ce qui arrive, c'est une allégorie de l'enfermement. On peut penser que c'est un village algérien, mais en fait, pour moi, c'est un village qui peut se trouver n'importe où dans le monde.
Oui, j'imagine. J'ai dit algérien, mais c'est vrai que c'est un peu perdu quelque part.
C'est ça. Donc, ce n'est pas mentionné le pays, mais en même temps, oui, pourquoi pas. C'est comment des hommes, des femmes peuvent vivre ensemble quand ils sont enfermés et quand l'enfermement gagne l'esprit. Qu'il n'est plus physique, parce qu'à un moment donné, il faut aller voir si les militaires sont là. Ben, peut-être qu'ils ne sont plus là, mais personne ne va voir.
Alors, ce sont tous les habitants qui vont voir leur vie bouleversée. Le maire du village, plus rapporteur que vraiment maire d'ailleurs, le jeune Abdelkrim et sa petite famille récemment fondée, l'épicier Djelloul, le fou du village, l'imam et les femmes, tous vont peu à peu voir l'étau se resserrer. Et quand l'étau se resserre, la nature humaine devient impitoyable, Yaya Belaskri.
Eh ben, c'est dans des moments comme ça que la part d'ombre qui est en nous ressort et risque d'emporter tout. C'est ce qui se passe. À un moment donné, on va chercher le bouc émissaire de cette situation, parce qu'on n'a pas d'explication, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on en est incapable, et parce que ça habite les esprits, et à ce moment-là, on va se retourner les uns contre les autres. Ce n'est plus le lointain, c'est le proche qui devient problématique. Parce que c'est ça, et il devient l'étranger, celui par qui le malheur est arrivé, alors que personne n'a ramené le malheur.
Ouais. Alors ils finissent quand même par apprendre pourquoi le car ne vient plus et pourquoi des militaires se sont postés à la sortie du village pour tout bloquer. L'un d'entre eux aurait trompé la confiance du grand maître. C'est le prétexte, quelque part. C'est ce qu'on croit au début, on va pas tout raconter, parce que c'est plus compliqué que ça. Et on apprend au fil de l'histoire qu'il y a une sorte de manipulation. Mais c'est qui ce grand maître ?
Ah ben, on imagine facilement que c'est un dictateur, un autocrate.
Oui, c'est ça.
Voilà,
ouais. Ou Dieu, peut-être, non ?
Aussi ? C'est pas mal comme autocrate.
Oui, c'est pas mal, oui.
Mais en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui croit avoir tous les pouvoirs et qui les exerce, et qui donc, nous l'avons vu ça dans l'histoire de l'humanité, quand Hitler est arrivé en Allemagne, avec la propagande, il a pu avoir une grande majorité d'habitants d'Allemands qui l'ont suivi, et on sait ce qu'il y a eu. Et partout dans le monde, c'est arrivé cette histoire quand un chef autoproclamé détient tous les pouvoirs, il va les exercer sans contrepartie.
Vous écrivez « Toute personne qui tenterait de quitter le village sera abattue. Toute personne qui souhaite y entrer sera abattue. » Donc c'est vrai que là, plus rien n'est possible. On reste en vase clos et du coup, il se passe des choses.
Voilà. Il va se passer que tout de suite, quelqu'un qui est plus fort, qui est plus riche, va prendre le pouvoir, va prétendre au pouvoir et dire voilà, c'est moi qui vais organiser tout cela.
Voilà. Je vous arrête parce que sinon vous allez aller trop loin. Il y a Abdelkrim qui a 29 ans, je le disais, qui va être désigné comme coupable. C'est lui qu'on va cibler. Sans aucun fondement, une décision arbitraire orchestrée justement par l'homme le plus riche du village. Et il va devoir choisir la fuite, devoir choisir l'exil en plein désert avec son épouse et ses enfants. Il quitte tout.
L'exil sauve.
Oui.
On dit souvent que l'exil, c'est une malédiction, c'est une souffrance. Non, dans certains cas, l'exil est une porte de sortie pour renaître. Et Abdelkrim, dans ce cas-là, il n'a pas d'autre possibilité. Puis, il est poussé à l'exil. Et donc, à son corps défendant. Et il va repartir sur un autre, vers un autre endroit qu'il trouve, où il trouve des gens qui vont le recevoir et lui donner cette possibilité de croire.
Oui, c'est ça.
De croire.
Mais alors, ça fait penser à l'exil forcé, évidemment, et ça résonne, évidemment, dans l'actualité. Cet exil aussi, pas par la porte normale, parce que le village est bloqué à l'entrée, donc il va passer par derrière, quelque part, on imagine ça.
Absolument.
Parce qu'il passe par le désert, donc avec la souffrance, avec les entraves, avec tout ce qui fait que l'exil devient parfois plus que dangereux, mais mortel.
C'est possible.
C'est la situation que connaissent nombre de personnes aujourd'hui dans
les
le monde.
Les migrants,
ouais. Hier, on voyageait, on partait, on émigrait et on arrivait. Mmh. Aujourd'hui, on part de chez soi, on n'arrive plus. L'exemple de ces migrants qui étaient entre la Biélorussie et la Pologne le dit bien. Ils ne sont jamais arrivés, ils sont dans un entre-deux. C'est d'une actualité brûlante. Mmh.
Bon, on va laisser la place à nos libraires qui ont lu votre roman, Yaya Belaskri, avec le Canada et la Belgique. On commence par qui ? Canada ou Belgique ?
C'est très bien.
Choisissez.
Canada.
Allons-y, Mike Viennot.
Oui, nous avons ici un conte très particulier. S'il m'a fallu une certaine patience pour bien intégrer le récit, je fus très bien récompensé. C'est une allégorie de l'acceptation qui démontre le pire de l'humain quand le mensonge, la flagornerie et la haine prennent la place de la compréhension. J'ai l'impression de suivre un récit oral, d'être happé par l'histoire narrée d'un conteur lent et attentif qui, en mettant l'accent sur quelques détails, parvient à créer tout un arrière-plan symbolique, simple et essentiel.
Bien, la Belgique, avec Nathalie Clérin.
Oui, Emmanuel. Eh bien, Yaya Belaskri, vous avez choisi une allure de parabole, ce ton un peu biblique qui donne de la solennité, qui confère une valeur universelle au roman. Alors, en négatif, moi, j'ai eu du mal un peu à traverser tout ce récit où il n'y avait pas vraiment de place pour, par exemple, l'humour. Mais en positif, j'ai été bien sûr très sensible au côté engagement pour les droits des femmes et de la liberté.
Alors il y a ça, oui, les droits des femmes et de la liberté. Il y a des personnages aussi qui choisiront de résister, de subir pour espérer plus de liberté. Et c'est cela l'histoire de votre livre, Yaya Belaskri. Comment endurer les drames et injustices pour préserver son intégrité morale ? Comment fait-on ?
Ah ben, c'est un combat. C'est un combat qui coûte très cher, parce que ces femmes sont dans une impasse totale, puisque les hommes perdent toute mesure, toute valeur. Et alors, elles doivent trouver les ressources en elles-mêmes pour se régénérer, pour renaître. Et elles vont décider de partir. Parce que c'est la seule possibilité qu'il arrive. Non pas, elles ne se battent pas contre, mais elles se battent pour.
Oui, c'est ça.
Elles se battent pas contre les hommes, elles se battent pour vivre.
Pour vivre. Parce que l'idée, c'est que nous pouvons tous être acculés, maltraités, torturés, mais nous pouvons aussi rester debout face aux bourreaux. Choisir l'insoumission, même s'il faut renoncer à tout ce qu'on a.
C'est cela.
C'est ce qui se passe.
Et à ce moment-là, il y a quelque chose chez l'homme, l'individu, l'être humain, une femme ou un homme, quelque chose qui nous tient debout, c'est cette dignité, cette possibilité de se rebeller, de se révolter et d'aller vers la vie, de construire un autre projet.
Et d'abandonner quelque part, mais on n'abandonne pas tout. Il y a cette possibilité, Yaya Belaskri, universelle d'ailleurs, de dire « je vous laisse cette victoire ». Vous voulez me détruire, prenez cette victoire, vous avez gagné, mais moi, je ne résiste plus, je vous laisse tout, et en échange, je garde la liberté.
Absolument.
Et ça, c'est valable dans tous les domaines.
Absolument. Mais moi, je suis très content que vous dites cela. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ouais. C'est de liberté, fondamentalement. Liberté contre les croyances religieuses, liberté contre le pouvoir politique, liberté contre la présence ou insupportable des hommes qui sont arrivés au bout de l'ignominie. Mmh. Donc, et à ce moment-là, ben voilà. OK. Vous avez gagné, peut-être. C'est votre victoire.
C'est votre victoire.
C'est pas la nôtre.
C'est ça.
Nous allons nous inventer ailleurs.
On va vivre autrement.
Absolument.
C'est ce que vont faire les femmes qui, dans le village, vont avec courage s'opposer à leurs oppresseurs, à ces hommes qui considèrent qu'ils ont en plus tous les droits sur elles. Et vous montrez que l'exil, même dans son propre pays, même si c'est un exil au sein de sa propre famille, cela reste toujours une épreuve.
Absolument. C'est une épreuve parce que de toutes les manières, aujourd'hui, on parle beaucoup de gens qui partent de leur pays pour atteindre un autre. Mais en réalité, il y a des gens exilés chez eux. Mmh. C'est un véritable exil. Il est encore beaucoup plus douloureux parce qu'on croit que c'est chez soi, que on partage avec ceux qui sont autour quelque chose, mais non, on ne partage plus rien. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, autant partir.
Les mois s'écoulent, Yaya Belaskri, les années s'écoulent dans votre livre et nous verrons que vos personnages ont tous choisi des voies différentes pour sortir de ce marasme. Ceux qui vont rester se feront rattraper par l'histoire, avec un grand H. Ce sont eux qui, au final, seront perdus dans leur humanité. Ils diront même être sortis de l'humanité. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, sortir de l'humanité ?
Le crime. L'abjection du crime. C'est cela, sortir de l'humanité. À partir du moment où on ne respecte pas la vie humaine, qui est sacrée. Et s'il y a quelque chose de sacré, c'est bien la vie. À ce moment-là, on va vers le crime, et donc, on n'est plus un être humain. On est juste dans l'abjection, dans l'ignominie la plus totale. Et on renie à l'autre sa présence. Mais quand l'autre n'est pas présent, nous ne sommes plus présents. Nous ne sommes plus présents parce que nous avons besoin de l'autre. Et l'autre, ben, on dit « je est un autre ». « Je est l'autre », fondamentalement. Et puis, s'il y a quelque chose ici qui vibre par ces femmes, par ces jeunes, c'est la question de la vie, du consentement à la vie. Consentir à la vie comporte des risques, bien entendu. Mais consentir à la vie, ça veut dire y aller franco. Y aller parce que autant que nos peines sont abondantes, autant nos joies sont amples. Eh ben, il faut y aller, consentir à la vie. Et c'est ce qu'elles font, et ce que se font les jeunes.
Avec beaucoup de poésie, hein, il y a des extraits de poèmes, parce que vous êtes aussi poète, Yahya Belaskri. Et à la fin du livre, vous parlez un peu de vous, comme une extension comme ça de tout ce qu'on a lu. Et vous dites à la fin, c'est vraiment le dernier passage que je vais vous lire. « Je refuse l'assignation et ne réponds à aucune injonction. Je suis de nulle part et de tous les lieux où des femmes et des hommes s'évertuent à faire reculer la peur et enrayer le crime. De tous les endroits où se réinvente la bonté humaine. C'est là ma demeure, mon unique demeure. »
Ah oui, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre parce que partout où on va sur cette terre, partout, on trouve des femmes et des hommes de toute beauté qui entreprennent, qui inventent, qui réfléchissent, qui avancent. Et on trouve les autres qui reculent et qui détricotent. Ce sont ces femmes et ces hommes à qui j'appartiens. Quels qu'ils soient, Algériens, Soudanais, Américains, Français, de tous les bords, de tous les pays, de toutes les terres. C'est pour ça qu'un jour j'ai écrit un texte qui s'appelle « Parce que je suis un homme, je suis de tous les hommes ».
Bon, merci beaucoup Yahya Belaskri. Votre roman « Le silence des dieux » est paru chez Zulma, c'est un livre magnifique. Bonjour Xavier Dorizon.
Bonjour.
Comment allez-vous, Xavier? Vous regardez Yahya avec beaucoup de fascination. Et ce qui est très étonnant, c'est que tout ce qu'il a dit, on va le retrouver dans Goldorak. Alors, ceux qui nous écoutent vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je vous promets, en fait, cette thématique-là, c'est vrai, c'est ça, l'insoumission, la liberté, la rédemption, c'est dans Goldorak.
Il y a beaucoup de ça.
Il y a beaucoup de ça.
Beaucoup de ça.
On va découvrir ça ensemble tout à l'heure. Merci Yahya, vous restez avec nous. Goldorak, vous connaissez?
Oui.
Oui.
Bien sûr.
Allez, la chronique des libraires d'abord.
La librairie francophone.
La chronique des libraires avec leur sélection des livres pour Noël, des idées cadeaux pour vous. Je commence avec une intégrale d'Antoine de Saint-Exupéry. Non pas dans la Pléiade, ça existe, mais chez Bouquin, et c'est bien moins cher. Dans ce beau coffret, vous retrouverez toute l'œuvre de Saint-Ex, dont Vol de nuit et Le Petit Prince, en couleur, dans un papier fin proche de celui de la Pléiade. C'est parfait et incontournable. 32€ en France et Belgique, 56$ au Canada et 54€ en Suisse, en librairie. Voilà, je fais le libraire. Mathieu Colombe, vous avez aussi un cadeau à offrir avec un livre chez vous, en France.
Oui, tout à fait. Et moi, vu que j'aime beaucoup l'ambiance des fêtes, je vais parler de Atmore, Alabama, qui est une petite perle sombre et acide d'Alexandre Civico. À la fois fulgurant et dur, c'est le roman que vous pourriez offrir à votre cousin ou votre oncle, toujours habillé en noir, et qui tire une tête de 6 pieds de long pour les fêtes. C'est une plongeante au fin fond d'une Floride poisseuse et désespérée, avec une écriture effilée comme le fil d'un rasoir, bref, dans le genre roman noir. C'est sublime, et ça s'offre.
Très bien. Atmore, Alabama, aux éditions Actes Sud, chez Babel Noir. Merci Mathieu. En Belgique, Nathalie Clérin, un petit livre de poésie pour Noël.
Oui, moi c'est le petit livre Ici, du couple Martine et Philippe Delerme, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Alors, 20 ans après l'ouvrage intitulé Fragile, c'est à nouveau un recueil à deux voix, des dessins de Martine commentés par Philippe, de toute façon en totale harmonie. Et on y voit en fait une trentaine de dessins à l'aquarelle, tout en finesse. Et ça illustre les tentatives d'habiter finalement l'ici, l'instant présent, assiégé qu'on est toujours par nos souvenirs, nos craintes, nos attentes. Et en tout cas, c'est un très beau carnet à prix modique. Je vous conseille vivement de mettre sous le sapin comme petit cadeau pour les 12 à 120 ans, on va dire.
120 ans, c'est bien, ouais, c'est bien. On cible ça. Merci beaucoup, Nathalie, avec le couple Delerme qui publie ici aux éditions du Seuil. Et voici Indochine qui a célébré en cette année 2021 ses 40 ans de carrière. On écoute pour célébrer ça, College Boy, dans la librairie francophone.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. Moi, j'ai le droit.
petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you.
Indochine, 40 ans de carrière avec College Boy. Un beau livre et très réussi d'ailleurs, réalisé par Frédéric Rapilly et sorti récemment, Indochine, Dissidence Rock'n'Roll, paru chez Rock'n'Folk Édition.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Maryse Wolinski est donc partie rejoindre Georges le 9 décembre. C'est avec beaucoup d'émotion que nous voulions rendre hommage à cet ami de la librairie francophone et aussi une nouvelle fois à notre fidèle Georges Wolinski, assassiné par ces minables barbares. Maryse avait continué à porter la parole de son époux avec courage et avec des livres, dont un publié en 2018 avec Plantu sur la liberté de dessiner. Je vous propose d'entendre deux instants vécus avec elle, l'un dans la version télé de l'émission, l'autre à la radio. Sa gentillesse, sa douceur et sa ténacité resteront ancrées dans notre mémoire et dans l'histoire de notre programme. Dans ce livre, vous dites « Là où la sexualité est la plus taboue, règne la violence et l'instabilité politique. La frustration sexuelle génère des effets délétères sur la société. »
Oui, c'est ce qu'on peut constater dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, où il y a énormément de violence. Et puis, interdiction de l'avortement, interdiction de la sexualité, enfin, interdiction, contrainte, quoi. Aujourd'hui, on met des contraintes à
la sexualité. Et tout ça est lié, vous pensez ? La violence, les
armes ? Pour moi, oui. Ouais.
C'est quoi le problème avec le sexe dessiné, d'après vous ? D'où ça vient ? Ça vient de culture ? Ça vient de rejet ?
Non, rejet à cause d'une question de culture.
C'est ça, oui.
Voilà, ouais. C'est ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est que vous savez, les premiers harakiri, ceux d'ailleurs qui étaient interdits dans ma propre famille, mais on ne pourrait plus voir ce qu'ils faisaient sur harakiri il y a 40 ans, 50 ans, je pense. On ne pourrait plus les publier aujourd'hui. Ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a une censure réelle, mais en fait, on s'auto-censure.
C'est ça.
Il
n'y
a qu'à voir Charlie Hebdo aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le Charlie Hebdo que nous avons connu. C'est autre chose.
Vous le regrettez, ce Charlie Hebdo d'aujourd'hui ? Vous pensez qu'ils n'ont pas réussi à passer, à surmonter finalement l'épreuve ?
Ce n'est pas le problème qu'ils n'ont pas réussi. C'est que c'est une autre génération de dessinateurs.
Ce ne sont pas les mêmes, oui.
Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas
personne
ne
les remplacera, ceux qui sont partis.
Non. Et c'était des grands.
Oui, immenses.
Faut dire.
Bon, on pense à eux. Je vais le dire tout de suite parce que je suis très ému, parce que voilà, votre époux était un ami de l'émission, Georges Wolinski, et puis Cabu aussi. Et je voulais leur dédier cette émission-là. Voilà. Et avec vous, et on est ravis de vous
suivre. Faisons-le alors.
En fait, pour mon mari, ça posait beaucoup de problèmes. Il faisait de nombreux dessins de sexe. Enfin, même pour des journaux comme le Journal du Dimanche, il introduisait toujours. J'avais beau lui dire, est-ce que tu pourrais... Bon. Mais non, ça ne marchait pas du tout.
Ah, vous interveniez quand même.
Ah bah oui.
Ah, oui.
J'essayais.
J'essayais.
Je faisais des tentatives. Ouais. Mais 47 ans de tentatives, je n'arrivais à rien du tout. Bref.
Donc lui, il n'avait pas de problème, en fait. Pas tant que ça.
Non. On laissait passer ses dessins. Bon, il faut dire qu'il avait une certaine notoriété, oui, oui. Que voilà, il y avait ça aussi, quoi. Mais je sais qu'autour de lui, il y a des dessinateurs qui ne pouvaient, il y a certains dessins qui ne pouvaient plus, oui, passer.
Maryse Wolinski, à qui nous rendrons hommage aussi dans la version télé de l'émission, diffusion à partir de lundi sur RTS2 et ici RTV, puis sur RTBF La 3 le 22 et TV5 Monde dimanche 26 décembre à midi.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Les livres conseillés pour Noël par nos libraires. Suite au Canada, Mike Vienno, on va dans le rayon bande dessinée, beau livre avec vous.
Oui, je vais parler de la bande dessinée René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, un collectif aux éditions Moelle Graphique. Il y a 13 récits de la vie de René Lévesque, un grand homme politique québécois. Oui. Ils sont présentés sous forme de bande dessinée. On sent vraiment la touche personnelle de chacun et chacune des BDistes. Les moments de vie choisis vont de pair avec les types différents de dessins, les techniques de dessin. Tout forme une suite logique. Un ruban qui se déroule pour nous présenter René Lévesque comme un grand homme dans sa gloire publique et ses travers privés. C'est un collectif qui parvient dans une très jolie uniformité à conserver la mémoire de cet homme qui était plus grand que nature dans une BD qui le présente encore plus vivant que jamais.
Bien, vous allez offrir ce livre, vous?
Oui, je pense que j'ai des gens qui vont adorer.
Bon, René Lévesque de Marc Tessier avec un collectif d'illustrateurs aux éditions Moelle Graphique. Merci beaucoup, Mike. En Suisse, Claire Renaud, un livre pour les enfants.
Oui, La Suisse en 150 questions aux éditions Ozu Suisse.
Oula, ça suffit pas, 150.
C'est déjà beaucoup. Un livre ludique et plein d'humour, dessiné avec plein d'humour. 4 thèmes le divisent, les énigmes, les dates, les fêtes et les records, qui s'adressent autant aux enfants de 6 ans qu'aux adultes et à ceux qui voudraient se naturaliser suisse. 150 questions à s'occuper auprès du sapin.
Eh ben, ça tombe bien pour Noël. Merci beaucoup, Claire.
Ce ne peut être que Goldorak, ce qui prouve enfin que le prince de Fort a réussi à trouver refuge sur la Terre.
Nous l'attaquons?
Oui, envoyez-lui Golgoth 1.
À tes ordres.
Transfert! Autolarme! Métamorphose! Missile Gamma! Goldorak, go! Planitron! Astéro H! Rétro-laser! Ulguro point! Récupération, arrimage.
Goldorak a réussi à s'en sortir. Il va nous falloir modifier notre plan. Pour le moment, il ne nous reste plus qu'à retourner à la base. Exécution.
À tes ordres.
Voilà, c'est complet, ça fait sourire Xavier d'Horizon. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des plus grands scénaristes de la BD française. Les Sentinelles, le Troisième Testament, des épisodes de Torgal, de 13 ou encore Ouest, Sanctuaire et j'en passe. Un jour de 2016, au Festival d'Angoulême, vous lancez l'idée de reprendre Goldorak pour raconter la suite des 74 épisodes de la série de dessins animés. Comment on a réagi autour de vous ?
J'ai commencé par en parler à des auteurs pour qu'ils, pour qu'ils le dessinent et je pense qu'ils ont tous eu la même réaction que moi, c'est-à-dire d'abord un grand blanc et ensuite ils ont tous sauté au plafond, que ce soit Denis Bajram, Alexis Santenac, Brice Cossu, Johan Guyot, tous ils étaient sidérés, le fait même d'y penser était sidérant pour eux.
Alors la tâche est difficile, le personnage est culte, le créateur est japonais, il n'a même jamais voulu continuer l'histoire et surtout vous êtes français.
Oui, alors
ça complique.
Ça complique. Alors heureusement, nous avons eu l'aide d'une Belge et non d'une Française, à savoir notre éditrice Christelle Hollands, qui depuis des années ouvrait les portes au Japon et elle était à même d'amener le dossier à Gonagai. Et puis ensuite, on lui a proposé un projet artistique et c'est ça qu'il a accepté.
Alors vous mettez le paquet hein, avec Denis Bajram au début. Vous montez un dossier pour convaincre justement le studio de Gonagai, le créateur de Goldorak. Vous expliquez tout à la fin de la BD avec des extraits du dossier. C'est digne d'une grosse production américaine, hein, Xavier. Faire des dessins, faire des esquisses, un scénario, des planches, c'est une chose, mais faire un album de 130 pages, c'est presque insurmontable quand on s'attaque à Goldorak, non ?
C'est insurmontable, enfin, c'était une épreuve, parce qu'il y a le volume, bien sûr, mais ça encore, en bande dessinée, on peut avoir l'habitude, mais c'est surtout que d'abord, il y avait l'obligation de respecter les 74 premiers épisodes dont vous avez parlé, se les approprier, parce qu'il ne s'agissait pas de les copier non plus. Et ensuite, je pense que toute l'équipe était tellement passionnée de Goldorak, comme j'imagine beaucoup de vos auditeurs, qu'on s'est mis une pression dingue sur chaque planche.
Oui, ça a duré 5 ans.
5 ans.
5 ans de travail. Le résultat est magistral, Xavier. Je suis sûr que les libraires vont en parler comme moi. C'est incroyable. J'arrête pas de le feuilleter, de le relire, parce que je me dis, mais comment ils ont fait ça? Et vous qui nous écoutez, vous comprendrez en regardant les dessins, parce qu'il y a une précision et des détails que je n'ai jamais vus ailleurs. Alors, dans le dernier épisode du dessin animé, Actarus, prince de fort, qui a vaincu Vega et sauvé la Terre, retourne sur sa planète avec sa sœur Phénicia. Vous avez imaginé son retour et surtout son questionnement sur la violence vécue toutes ces années. Et effectivement, vous mettez en exergue la violence. Avec le recul, diriez-vous que Goldorak était une apologie de la violence ?
Certainement pas. Goldorak, c'était une apologie d'abord de l'évasion, de la magie, du courage, de l'amitié. Mais il faut quand même l'admettre, dans les premiers épisodes, Goldorak parlait de la peur de l'autre et la peur de l'autre se résolvait par la violence. Et au fur et à mesure de la série, ces deux éléments ont changé, ont évolué. Et nous, on a simplement tiré les derniers fils des derniers épisodes pour traiter de ces questions-là.
Alors, il y a 2 pages qui montrent un Actarus empli de haine, perdu dans sa vengeance. Et il dira que les troupes de Vega ont seulement voulu trouver une terre d'accueil. Il réalise ça à un moment. Guidé par de mauvais chefs, ça rejoint ce qu'on disait avec Yaya Belascri, je vous l'avais dit. Et cela résonne avec l'actualité, avec la réalité de notre monde. Actarus lui-même est un être déraciné, un étranger en situation irrégulière sur Terre.
Ah bah c'est un migrant.
Et oui.
Voilà. Et c'est un migrant qui pourtant protège le pays qui l'a accueilli, protège ses valeurs. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis mes grands-parents étaient immigrés. Vous voyez, je suis là aujourd'hui à parler des valeurs de la France, comme quoi.
Ouais. Vous abordez en tout cas avec ce Goldorak le thème de la migration qui fragilise les êtres et les territoires, qui entraîne des guerres. Et comme vous le dites, comme vous l'écrivez à un moment, ce qui empêche la paix, c'est la peur de l'autre.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, comme tous les gamins, je pense qu'on était fascinés par Goldorak qui réduisait ses ennemis en miettes à coups d'astéroïdes et de cornofulgures.
Bah, c'était très violent, hein, je répète.
Il faut admettre une forme de fascination pour ça. C'est vrai que c'est...
Parce que dans les têtes, il y avait des hommes, quand même.
Oui,
alors... C'est très malin chez Goldorak, parce que ce sont des bestioles informes, ces espèces d'aliens métalliques qu'on décapite, sauf que dans les têtes, il y avait des hommes qui les...
Alors ça dépendait, vous savez, il y avait les Golgoths et les Anteraks.
Hein. Oui, c'est vrai, on va pas rentrer dans le débat.
Non, sûrement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, vous avez raison, il y avait une déshumanisation de l'ennemi, comme on peut le voir aujourd'hui dans les films de super-héros qui se baladent sur nos chaînes. Mais justement, la fin de la série, et notamment les dernières saisons, montraient clairement que les hommes de Vega avaient aussi leur dilemme et leur humanité.
Il y a une phrase aussi très forte, nous avons tous notre part de haine, la nier serait une folie. C'est le père terrestre, le professeur, je crois, le père d'Actarus qui dit ça.
Le professeur Procyon.
Oui, bien évidemment. Allez, la France et la Belgique ont lu cette BD. Attention, Mathieu Colombe en France, le connaissant fan de bande dessinée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez-y, Mathieu.
Bon, alors habituellement, j'aime pas les reprises, hein, ce genre de choses, vous le savez. Ouais. Mais quel bonheur de retrouver le premier, le seul, l'unique, le presque vrai. En plus, bon, personnellement, moi, quand on met du rétro-laser et du cornofulgure, je suis pas vraiment tenable. Alors, pour des retrouvailles, déjà, c'était beau. Ensuite, lorsqu'on voit la volonté derrière tout ça, on a envie de saluer bien bas les auteurs. Le scénario tout d'abord qui est en maturité et garde un réel message. Et en plus, le dessin, on peut que remarquer l'immense travail derrière. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un grand bravo.
Merci. Grand bravo. Nathalie, merci. En Belgique, fascinée ou pas par Goldorak, en tout cas par le Goldorak de Xavier Dorizon et de tous ses dessinateurs.
Oui, voilà. Moi, a priori, je ne suis pas attirée par les robots. J'aurais sans doute pas lu la BD si vous ne m'aviez pas attiré l'attention sur elle. Mais je suis très contente parce que j'ai découvert un récit d'une dynamique extraordinaire. Et pour faire rencontrer précisément la BD et le manga, le récit fait preuve d'une maîtrise que je trouve tout à fait remarquable. Je l'ai particulièrement apprécié au niveau composition des planches, ce qui est pour moi un énorme point pour le genre. Et aussi maîtrise du dessin qui, lui, est précis, simplement fabuleux.
Ouais, prodigieux, Xavier Dorizon. On est tous d'accord.
Ah bah ça, c'est faut remercier Denis, Alexis, Bricio.
Ouais, Bajram, Kossu, Santonac et Guillot. La mise en scène mise sur la tradition du manga avec l'esthétique de la BD franco-belge. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est ça peut-être qui est captivant pour nous. Vous avez réussi tous ces détails, toute cette exigence dans le calme entre vous. Ça s'est bien passé ou...
Mais c'est assez incroyable. C'est-à-dire que ça a duré 5 ans et on est toujours amis.
Ah oui.
Il jaillit du fond de la mer. Il bondit jusqu'à Jupiter.
Défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours.
Alors... Alors, il y a de petites références à notre enfance, Xavier Dorizon, et notamment un moment où le professeur du centre scientifique de Goldorak va mettre un 45 tours avec la chanson de Goldorak. On imagine que ça peut être celle-ci ou une autre, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est un petit clin d'œil, un petit peu hors propos finalement. Vous faites plaisir là.
C'est la seule fois. Normalement, je suis pas très deuxième degré, mais là, cette mise en abîme là nous amusait. Mais sinon, l'histoire se veut comme se voulait d'ailleurs Goldorak, totalement premier degré.
Ouais. Alors, ce n'est pas un Goldorak triomphant que vous montrez, mais plutôt un travail sur la rédemption. Et cela avec tous les personnages. Vous soulignez les erreurs passées, vous égratignez un peu le mythe aussi. Vous vouliez réhabiliter leur humanité, justement. On revient à Yaya Belaskri tout à l'heure.
Ce qu'on voulait montrer, c'est globalement la grande victoire pour Goldorak et pour tous ses amis et toute son équipe, c'est pas tant de tuer un Golgoth de plus que d'avoir une victoire sur soi-même. Ce qui était déjà montré là encore dans la série, et simplement, on a un peu poussé les curseurs de ce qui existait déjà.
C'est-à-dire pousser les curseurs.
En fait, les personnages ont vieilli. Ils ont dans l'intrigue une dizaine d'années de plus. Ouais. Bon, nous, on en a 40 de plus, mais bon, c'est à peu près la même idée. Et ce qui nous a amusé, c'est de faire une mise en abîme entre ces personnages qui voient 10 années plus tard, qui ont un recul sur ces années qui étaient certes terrifiantes, mais en même temps fascinantes, et qui pensent à leurs remords, leurs regrets, leurs espoirs, et nous, auteurs devenus adultes aussi, qui repensons à notre enfance. Et c'est de cette mise en abîme-là qu'on parle.
Alors, vous avez écrit à Gonogai, le créateur de Goldorak. Vous reproduisez cette lettre, et dans la lettre que vous lui avez adressée, vous dites « Le Goldorak que je rêve de faire est un Goldorak dont l'énergie et le rêve sont issus de mon enfance, mais sur lequel je voudrais apporter mes outils et mon regard d'adulte. » C'est une lettre d'intention, c'est assez mignon, Xavier.
Parce que gentil, ça.
Non, mais franchement, parce qu'on a l'impression que c'est un grand enfant qui s'adresse à quelqu'un dont il est fan. Hein, vous y allez avec précaution.
Oui, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement de la précaution, c'est de la sincérité. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur, je me nourris soit de mes colères d'adulte, soit, je dirais, de mes joies et de ma naïveté d'enfant. Et là, évidemment, pour Goldorak, la nourriture, elle était énorme. C'était un filon incroyable. Et c'est juste que je lui ai essayé de lui expliquer.
Vous le dites aussi, c'est l'un des plus beaux rêves de mon enfance.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai?
C'est vrai. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous êtes un petit garçon dans le 12e de Paris et la grisaille, et que le vendredi soir à 18h30, ou 18h, vous regardez Goldorak, pendant une demi-heure, vous êtes plus sur Terre. Et c'est la puissance, le pouvoir d'évocation de ça, c'est quelque chose qui vous nourrit toute une vie.
Ah, en France, c'était le vendredi à 18h30?
18h, je crois.
18h.
Je crois.
Vous rentriez de l'école, comment ça se passait?
Ah, c'était le sprint. C'était le sprint pour arriver. Mais tout le nombre de gens qui m'ont raconté ça. C'était le sprint pour arriver à l'école. Pour arriver, pardon, chez moi. Et là, faire les devoirs le plus vite possible, on s'en doute, parce que sinon, on n'aurait pas le droit à la télé. Et avoir ces 22 minutes fabuleuses.
Et c'était les premières diffusions. Première diffusion, en plus.
Oui,
c'est pas connu. Hein.
C'était les premières diffusions. On vivait dans une époque de rareté en termes de produits imaginaires. Donc, ça, c'est profondément marquant. Et c'était qualitatif.
Vous avez eu un retour du créateur de Gonogai lui-même?
Le premier retour, c'était sur notre dossier. Il nous a dit, voilà, je vous laisse faire le dernier épisode de Goldorak, ce qui était quand même pas rien.
Ouais.
Et ensuite, ça a été une validation de toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il a tout vu, chaque dialogue, chaque dessin, chaque crayonné.
Ah, il a tout surveillé quand même.
Tout.
Ah oui.
C'est-à-dire que chaque étape, on devait attendre son retour du Japon pour avancer. Et là, malheureusement, j'ai pas de bonne histoire à raconter parce qu'il était d'accord tout le temps.
Incroyable. Et vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez vu, vous l'avez rencontré? Rien.
Alors, moi, je l'ai déjà rencontré, mais c'était bon dans une autre vie. Et
vie à l'époque vous étiez avec Vega?
Non, parce qu'en fait, c'est complètement le hasard. En fait, j'avais écrit une histoire qui s'appelle Le Maître d'armes, et lui-même faisait partie d'un comité d'auteurs qui a récompensé cet album au Japon. Il m'a invité au Japon.
Ah d'accord. Voilà. Ah oui, mais donc il vous connaissait déjà.
Oui, mais pas du tout pour Goldorak.
Oui, non, mais bon, voilà. Du coup,
il n'avait pas fait le lien. Il n'avait pas fait le lien, surtout. Ouais. Mais non, c'est notre éditrice qui a fait le lien et j'ai pas eu la chance après de lui reparler en direct, malheureusement.
Bon, merci beaucoup Xavier Dorizon. Goldorak est paru chez Canard, réalisé avec Bajram, Kossu, Santenac et Guillot. Félicitations à vous cinq, vous avez fait revivre le rêve, c'est sublime. Bravo Xavier. Dernière idée cadeau pour les fêtes, le dernier volume de l'intégrale de Snoopy et les Peanuts, avec les dernières planches de Schultz, juste avant sa mort. Dargo a tout publié en 25 volumes, dans un format à l'italienne, c'est magnifique. Et dans ce dernier volume, il y a la lettre de Schultz au lecteur des 2600 journaux, dans 75 pays, tous ces lecteurs qui lisaient Snoopy pour annoncer qu'il arrête et que personne ne prendra la relève. Il va mourir quelques jours seulement après son dernier strip et vous remarquerez d'ailleurs, si vous regardez de près, que son trait est un peu tremblant sur Snoopy. Mais c'est toujours efficace et très émouvant. Vous avez dû aimer Snoopy aussi, Xavier Dorizon.
Mais énormément.
Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec le chanteur tahitien Eto.
E manarahi to oe e te tamaku maoie te roto ia oe oe ananahi oe te aito te e whenua oe te aito te e whenua maoie.
C'est un extrait de Maoye Atia du tahitien Eto. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Nicolas Delmas. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous passerons Noël à Montréal. Émission spéciale entièrement en reportage avec nos invités à découvrir en avant-première en podcast sur les sites internet et plateformes de France Inter, de la RTS et de la RTBF à partir de mercredi 22 décembre ou à la radio aux jours et horaires habituels le week-end prochain. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole de Yaya Belascri. À suivre Barbatruc sur le thème de la ville à hauteur d'enfant.